Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour notre numéro d'avril 2026, bâtiment optimisé. On vous rencontre chaque mois, on vous donne des informations très précises. Ça fait maintenant pratiquement la quatrième saison que l'on suit le décryptage du bâtiment optimisé, organisé, coproduit avec nos amis d'Axéo. La thématique du mois aujourd'hui, un élément fondamental, on peut même dire vital pour le bâtiment, c'est le diagnostic structurel obligatoire, DSO. On adore ça en France, faire des abréviations. Nouveau pilier de la sécurité immobilière. On va en parler avec deux invités, deux experts pour qui on va décrypter cette actualité justement. Il est avec moi sur le plateau, je crois même d'ailleurs que c'est la première fois que je l'interview, c'est Guillaume Dorizon. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci de me recevoir.
Vous êtes directeur d'activité, assistance à maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'ouvrage spécialisée chez Axéo. Vous occupez essentiellement d'actifs tertiaires, mais plutôt le bâti dans toute sa dimension. Vous êtes capable d'en parler, bien évidemment.
Exactement. On s'occupe du bâti dans tout son... sa constitution.
C'est un sujet extrêmement important, bien évidemment. On va le décrypter, si vous voulez bien, avec vous. Il fallait qu'on le décrypte avec ceux qui sont à la manœuvre, hein, tous les jours, pour le compte des clients, hein, que ce soit des foncières, que ce soit des family office, des petits acteurs particuliers, avec un des piliers, là, pour le coup, de l'immobilier français. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Laetitia Dodin. Bonjour Laetitia.
Bonjour Sylvain.
Vous êtes responsable métier syndic chez Evoriel.
Exactement.
Voilà. Pour ceux qui ne voilà, qui font pas le lien, Evoriel, c'était Auralia, devenu Evoriel aujourd'hui.
Alors Evoriel, ça comprend la marque Auralia,
la marque Lamy,
la marque Richardière, en tout cas pour ce qui concerne le syndic.
Est-ce que tout s'appelle Evoriel maintenant ou est-ce que ces marques continuent à exister en province?
Alors Evoriel, c'est vraiment une marque ombrelle, comme on va dire, une marque employeur. Non, les marques Lamy, Auralia, Richardière continuent à exister et nos clients ne connaissent d'ailleurs que leur marque, Auralia, Lamy, Richardière.
Voilà, un des acteurs majeurs de l'immobilier français, bien évidemment, parce que vous représentez une activité très importante en copropriété comme en administration de biens. Alors, on va parler d'actualité, si vous voulez bien. L'actualité, c'est les passoires thermiques. Alors, je vais vous dire, c'est un peu la dent creuse. On parle des passoires thermiques chaque année, bouilloires, passoires. Alors, au début, on a commencé avec les passoires, ensuite on est passé aux bouilloires thermiques. Mais qu'en est-il de la solidité même des murs? On le voit hein, d'ailleurs, les problèmes d'infiltration, d'humidité, de dégradation. Je pense que ça a parlé à tout le monde de ce qui est en train de se passer, par exemple, à Honfleur, avec une dégradation du bâti. La rue d'Aubagne qui s'est effondrée, mais aussi d'autres rues dans Paris qui ont été dégradées, avec parfois des poisons lents qui s'infiltrent dans les murs et qui créent des dégradations importantes, que ce soit des remontées capillaires, des pluies latérales ou des problématiques de structure. Il y a un vrai, vrai sujet. Voilà, Angers, Lille. Lille, ça a été absolument dramatique. Marseille, bien évidemment, ça a été le dégradé. Déclencheur. Bref, le législateur a tranché. La loi Habitat dégradé du 9 avril 2024, instaurée par la nouvelle obligation qu'on appelle le DSO, diagnostic structurel obligatoire. Le décret du 12 août 2025 est venu préciser les conditions d'application de cette loi. Et justement, je vous propose qu'on passe au décryptage de cette loi. On lance le débat.
Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts.
Alors, c'est important le décryptage des experts. Parce que, bon, vous avez l'habitude, puisque tous les jours, les clients vous posent des questions, Guillaume, sur les sujets. C'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver. D'ailleurs, passer par un administrateur de biens ou un syndic, je peux vous dire qu'on est beaucoup plus tranquille pour décrypter l'actualité. Moi, j'ai envie de poser une question un peu globale. Le bâtiment est en train de vieillir un peu plus vite que prévu. Peut-être que les facteurs exogènes, géo-climatiques, ont un impact, bien évidemment. Comment on suit son évolution? Je vais préciser ma pensée. On pense que le bâtiment vieillit. S'il vieillit, on peut imaginer que c'est un métabolisme lent qui se dégrade comme un organisme vivant. C'est vrai qu'on ne s'y attend pas, mais c'est un peu ça.
Exactement. En fait, on peut vraiment considérer le bâtiment et se rapprocher du concept du corps humain en se disant qu'il vieillit, il se dégrade, des fois sans qu'on s'en rende compte, et surtout, de manière importante, sans qu'on s'en rende compte. Et comme avec notre corps et notre santé, on a tendance, dans le bâtiment, à avoir une habitude de gestion curative plutôt que préventive.
Ah oui, c'est vrai. Très français, ça.
C'est un peu très français.
Une fois que le mal est là, on essaye de... Oui, c'est vrai. Hein.
On essaye de savoir pourquoi il est là, alors qu'il y avait potentiellement des signes avant-coureurs qu'on aurait pu regarder.
C'est comme les symptômes que l'on a. Si on ne fait pas attention à ces symptômes, le jour où on va voir le toubib, parfois,
ça peut être trop tard. Mmh. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur les cas que vous avez cités avec des effondrements et ce genre de sujet, où des signes avant-coureurs étaient présents, mais ils n'ont pas été vus, ils n'ont pas été traités, ils n'ont pas été cherchés. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec ces drames.
Ou alors maltraités, peut-être.
Voire maltraités. Mais la plupart du temps, simplement ignorés, en fait. C'est, sans aller au sujet de maltraités, c'est vraiment le fait d'ignorer les signes qu'on peut voir.
On a des murs, je pensais à Honfleur, qui sont rongés par l'humidité à cause des remontées capillaires. Bon, oui. Bah, les remontées capillaires, ça parle à personne. Mais quand on est syndic ou administrateur de biens, on sait ce que ça veut dire, l'engorgement dans les caves, etc. Si on avait fait ce qu'on appelle un cuvelage sur les caves de cet immeuble de Honfleur que je connais très bien, et mettre un drain pour évacuer l'eau, parce qu'en plus il n'y avait pas loin à aller, vous savez, pour évacuer l'eau, cet immeuble tiendrait toujours et on aurait toujours des commerçants. Vous avez mille fois raison. Est-ce que ça vous arrive comme ça que parfois vous allez sur des chantiers où vous avez des clients qui vous racontent des anecdotes sur lesquelles ils regrettent de ne pas être... d'être passé à côté ou de ne pas avoir fait les choses.
D'un point de vue structurel, c'est vraiment très fréquent et on retrouve souvent des tout petits sujets qui amènent des grosses problématiques. On vous parlait du côté thermique. On a pris l'habitude, par exemple, de venir combler les caves qui avant étaient ventilées parce que ça faisait rentrer de l'air frais sur un plancher non isolé. Et derrière, on a des problématiques d'humidité qui se créent, qui viennent impacter toute la structure du bâtiment et impacter de manière durable, par exemple, tout les fers des planchers bas, alors qu'on a juste voulu isoler un petit peu. Donc tous ces sujets-là, le bâtiment, un peu pour reprendre l'analogie, ça reste un organisme complexe et il vit dans sa globalité.
Ouais. Et c'est un métabolisme lent, très lent.
Oui.
C'est pour ça que c'est compliqué parfois d'anticiper, vous voyez ? Parce qu'on n'imagine pas que ça vieillit. Moi, je suis d'une génération où l'immobilier, pour nous, c'était une ligne d'actifs. Hein. Aujourd'hui, on perçoit la santé, la qualité de l'air, l'humidité, les problèmes. Est-ce que vous avez des chiffres ? Concrètement, qui est concerné et qu'est-ce qu'il faut et quand il faut agir ? Enfin, bon, on a compris, il faut anticiper, mais...
Si on raisonne sur l'aspect chiffres, on sait qu'en France aujourd'hui, on a un peu plus de 400 000 logements qui sont dans un état de péril avancé. Considéré comme un état de péril avancé, c'est supérieur à la ville de Lyon, en quelque sorte.
C'est énorme.
On parle d'1,5 million à peu près de logements avec un état de vétusté avancé. En fait, si on regarde, surtout, on a plus de 60% du parc français qui a été construit avant 1975 et avant l'apparition de normes thermiques et de normes parasismiques, par exemple, pour l'aspect structurel. Ce qui fait qu'on a construit beaucoup de bâtiments pour pallier une demande très importante et peut-être un peu vite à un moment, ou en tout cas sans forcément suivre depuis 1975 tout ce qui a été construit dans la durée.
Alors, justement, vous me parlez de 1975. Rappelez-vous, comme la première version du DPE était sortie, il n'avait pas intégré les matériaux d'avant 1975 qui avaient créé des gros problèmes de faux DPE qui avaient dit, d'ailleurs, la ministre avait pris la parole en disant « je rembourserai ». Je crois qu'il y avait 80 000 DPE qui étaient faux du lendemain. Est-ce que, quand on dit, justement, ça concerne tous les immeubles, c'est automatique
Pour le DSO
Oui.
Alors aujourd'hui, le DSO,
il
s'applique à tous les bâtiments d'habitation collective qui ont plus de 15 ans. Mais attention, qui sont dans une zone définie par la mairie.
Ah bon, expliquez-nous ça.
Donc chaque mairie doit identifier sur son territoire la zone où on veut appliquer le DSO et ensuite le faire valider en conseil municipal et surtout l'intégrer dans son PLU. Tant qu'on n'a pas intégré le périmètre dans le PLU, le DSO n'est pas obligatoire.
Ça veut dire que le DSO, qu'on comprenne bien, il y a une loi qui a fixé un cadre, DSO obligatoire, entre guillemets.
Oui.
Mais pour qu'il devienne obligatoire, il faut que le maire, dans sa collectivité, le mette dans le PLU.
Exactement.
Et on en a pour une pige, là.
On peut en avoir pour longtemps. En même temps, c'est aussi important que ça soit fait au niveau municipal et avec une connaissance de ne pas mettre forcément tout
c'est
le territoire
dans le PLU. Si je fais un arrêté, par exemple, municipal, qui dit que dorénavant... il faut un DSO, ça ne suffit pas. Non, ça il suffit faut que pas. Je modifie mon PLU.
Alors, c'est une modification du PLU, mais c'est, oui, ça c'est reste pas, assez ça, simple.
Oui, mais dans l'absolu, si je suis volontaire, j'en ai pour, je peux aller plus vite que ça. Quoi.
Bah, on voit aujourd'hui que des mairies ont déjà fait le pas et sont allées très vite pour le mettre en place, comme à Lille ou à Marseille. D'autres mairies ont voté l'instauration du DSO, mais ont indiqué qu'il serait dans le PLU que fin d'année, par exemple.
Mmh. Question, Guillaume. Merci d'ailleurs. Alors, c'est hyper important ce qu'on dit là, les amis, parce que le PLU, décision du conseil, enfin de la municipalité, les syndics qui sont dans le ressort de la municipalité,
oui.
Du coup, eux, ils sont obligés de le faire.
Exactement.
Ils ont quel délai pour le faire ?
Ils ont 18 mois à partir du moment où ils ont été informés.
Mais comment ils sont notifiés ils reçoivent un courrier de la mairie ?
Ils sont notifiés par la mairie via un courrier recommandé.
Ah oui, la propriété est enregistrée, forcément.
Pour leur indiquer qu'ils ont, qu'ils sont dans un périmètre et qu'ils ont 18 mois pour réaliser
ça. Qui est notifié ? Le syndic professionnel ou le conseil syndical ? Ou les deux ?
Aujourd'hui, a priori, on ose espérer que ce soit
le syndic.
Deux.
Ah, j'ai la réponse.
Le syndic, puisque c'est lui qui va être référencé sur le registre de l'ANA, et donc c'est là où la mairie va trouver les informations de qui contacter directement. Et bien évidemment, le syndic derrière.
Alors, justement, Laetitia, merci pour la transition. Comment vous accueillez cette nouvelle de ce DSO ? Parce que, alors, deux cas de figure, je provoque un tout petit peu, mais c'est normal. On a l'impression de vivre une inflation normative, réglementaire, du style vos équipes, encore. Allez, encore un décret du style au revoir 40, bonjour 50. Il y en a de plus en plus, vous savez, hein, on est truffé de normes, etc. Comment c'est accueilli ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, chez Boriel ? Est-ce que cette contrainte, c'en est une de plus ou vous partagez l'idée que le 2SO, c'est vraiment un acte intéressant sur le plan de la gestion structurée des bâtiments ? C'est l'esprit de la loi au départ. Hein.
Exactement. Alors, chez Boriel, clairement, on le voit pas du tout comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité, puisque aujourd'hui, connaître la nature profonde des immeubles, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Un syndic, ça reste un très bon conseiller immobilier, mais ce n'est pas un sachant du bâtiment, ce n'est pas forcément un expert de la structure de l'immeuble, et les copropriétaires non plus. Donc, il vaut mieux avoir une vision claire qui va permettre derrière de faire des choix objectifs. Donc, alors clairement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est vraiment un changement de logique de gestion du bâtiment. Jusqu'à présent, on gérait les bâtiments un peu, on subissait les réparations, on subissait des choses à réparer, pardon, on devait réparer des choses qui venaient de casser. On était plutôt pas dans la proactivité, mais dans la réactivité. Ce qu'on a toujours demandé à un syndic, c'est d'être réactif. Alors que là, vraiment, on va plutôt dans le côté proactivité, et ça, c'est hyper intéressant, parce que derrière, ça va être un vrai outil d'aide à la décision des copropriétaires, des assemblées générales. Et puis, clairement, on va vraiment valoriser le patrimoine. Ce qui est quelque chose, aujourd'hui, n'importe quel syndic rêverait d'avoir que des immeubles en bon état, qui fonctionnent bien, où rien ne casse jamais, etc. Le rêve absolu, bien évidemment, ça n'existe pas, ou en tout cas, il y en a quelques-uns, mais on y arrive petit à petit avec la rénovation des bâtiments. Mais encore une fois, ce n'est pas pérenne pour les 100 prochaines années non plus. Il va falloir y revenir et y revenir.
Il va falloir vous expliquer à vos clients que ce DSO, pour leur vie propre, ça peut être hyper important. Parce que moi, ce que je vois dans ce diagnostic, c'est aussi toutes les implications sur le plan de la santé physique des habitants, de la qualité de la gestion du bâtiment.
Exactement.
Parce qu'il y a quand même eu des morts sur des sujets comme ça. Et mais en même temps, c'est culturel. C'est vrai que les Français n'ont pas l'habitude qu'on leur dise que votre immeuble, ça peut être aussi une norme par destination, si elle est mal entretenue, si les travaux ne sont pas faits. Alors vous le faites toute la journée, vous dites à vos clients, il faut faire. Vous avez conscience, mais ce n'est pas toujours... S'il devait y avoir des freins, justement, parce que alors vous, en tant que syndic pro, nos sous-seils, vous avez intégré ça, et vous avez raison d'ailleurs, ça, je trouve ça extrêmement sain de réagir comme ça, de dire que c'est une opportunité plutôt qu'une contrainte de plus. Vis-à-vis de vos clients, comment ça va se passer ? Comment vous voyez le...
Alors clairement, des freins. Le mot que vous utilisez, il est juste. On a quand même pas mal de freins. On a des freins contextuels, on a des freins humains, on a des freins financiers. Hein. C'est le premier frein qu'on va rencontrer, évidemment, puisque forcément, on a des copropriétaires qui, comme vous le disiez tout à l'heure, voient s'accumuler les obligations, les diagnostics, etc. Tout ça a un coût, évidemment.
Oui,
rien n'est gratuit.
Les charges, l'explosion de l'énergie qui a pesé.
Donc c'est un premier frein.
Le fait que les propriétaires, ils ont été quand même sérieusement mis à mal par les politiques publiques de ces dernières années. années quand même.
On est aujourd'hui sur un principe de précaution, alors qui va dans le bon sens hein, pour et la oui. sécurité et la santé et des oui. personnes, mais qui a forcément un coût qui n'était pas forcément anticipé ou dans la mentalité des Français jusqu'à présent. Donc on a ce frein financier. Alors clairement, le coût quand même du diagnostic structurel au regard de ces enjeux, il reste proportionné. On est sur des choses raisonnables,
on
mais quand même,
justement.
Ça fait toujours un peu alors, petite pénibilité. Ça, c'était le premier frein.
Le DSO, c'est vous qui le faites, on est d'accord.
Oui.
D'accord. Oui. Oui, continuez.
Premier frein, oui, j'en ai quelques autres. Effectivement, qu'on rencontre, nos copropriétaires ont aussi ce frein de lassitude réglementaire, on le disait tout à l'heure. On accumule les diagnostics
donc,
et les obligations.
Le ras-le-bol normatif.
Qui fait que du coup, la première réaction, ça va être de se dire bah, non, stop, c'est bon, encore un truc en plus, etc. C'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Et puis, on a aussi un frein naturel humain. On parlait tout à l'heure de la santé physique des hommes et des femmes. De se dire, oh là là, on va m'annoncer des choses que je n'ai pas du tout envie d'entendre, peut-être. Parce que potentiellement, un diagnostic structurel, il va mettre en évidence des choses à faire, des éléments à reprendre. Ça veut dire bah, des charges en plus, des travaux à voter.
Mais oui.
Et puis, ça veut dire aussi peut-être une valorisation de son bien propre qui vient se dévaluer. Dans l'immédiat, on s'attendait à ce que notre appartement vaille le temps. Et puis, en fait, finalement, dans un bâtiment dont la santé n'est pas bonne,
je pensais qu'il n'y aurait pas de travaux, mais il faut en faire.
Ouais.
Et puis, il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Parce que et puis, il faut rappeler que ce sont beaucoup de petits propriétaires qui n'ont pas les moyens toujours de faire les travaux.
Et c'est pas forcément la compréhension technique aussi. C'est-à-dire que c'est quand même un peu complexe.
Comment vous allez faire parce que, est-ce qu'ils ont compris, vos clients, qu'à partir du moment, je reprends en beau terme, hein, Guillaume, où c'est adopté dans le PLU, ça devient obligatoire et vous avez 18 mois,
18 mois
pour vous mettre en conformité. Pour le client, c'est clair, parce que du coup, à la limite, il n'a plus le choix, en fait.
Alors le client, effectivement, il aura une obligation, il faudra qu'il fasse.
Vous allez faire votre assemblée en disant au conseil, ou appeler le patron du conseil syndical, désolé, mais dans les 18 mois, on va pouvoir y aller.
Alors effectivement, quand on est face à un bâtiment où on n'a aucun signe de faiblesse et que du coup ça tombe comme ça,
dans
par
périmètre.
Le PLU qui vient d'arrêter cette décision, ça peut-être surprendre. Après, 18 mois, ça reste quand même un temps en syndic, en gestion de copropriété qui reste... acceptable, en tout cas qui est faisable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va recevoir l'information, eh bien on va en informer le conseil syndical, en informer les copropriétaires, soit attendre la prochaine assemblée générale annuelle puisqu'elle est dans 2-3 mois et que ça laisse pile le temps de recevoir des devis pour faire ce diagnostic structurel, soit convoquer une assemblée générale supplémentaire pour qu'ils puissent se projeter sur cette décision. Et puis derrière, après, le temps de réalisation. Ce qui est sûr, c'est que si on est sur des copropriétaires qui ne sont pas suffisamment accompagnés dans l'annonce de cette information, ils peuvent peut-être se dire bah non, freiner des cas de fer et se dire bah non, on reporte, on verra plus tard, etc. Et là, ils vont se heurter à l'obligation légale et qui est que le maire derrière, la mairie, peut faire le diagnostic structurel en commande directe et aux frais de la copropriété, ce qui serait bah, du coup un choix de non, un non-choix pour les copropriétaires, ce qui serait dommage.
Alors, qui serait dommage, donc du coup, effectivement, quand on voit déjà la façon dont ils sont parfois traités, ils le prendraient plutôt mal. C'est là qu'on voit que toute la pédagogie
est importante.
De vos collaborateurs, des gestionnaires, et quand même, ça va pas être facile quand même sur certaines assemblées. Il y en a pour qui ça passe, forcément, puisque du coup, il y a approché, puis il faut surtout expliquer, c'est ce qu'on va faire, le diagnostic, ce diagnostic qui du coup vient compléter un arsenal, parce qu'il faut quand même bien rappeler, juste pour resituer, que ce diagnostic, il a été monté, voulu, à cause d'un vide qui existait et qui manquait peut-être. Bon, on peut disserter sur le fait que peut-être qu'on aurait dû y penser avant ou d'avoir une vision plutôt plus globale dans le 3PT, par exemple, ou avec le schéma de l'audit énergétique qui va bien plus loin que le DPE, etc. On pourrait dialoguer ou débattre, mais en tout cas, il faut quand même, je pense, saluer cet élément. Une deuxième partie sur le diagnostic méthodique. Ouais, diagnostic méthodique. On ne parle pas d'un simple coup de, j'allais dire, on doit mouiller. Oui, bon, il y a une infiltration. Non, il y a vraiment. C'est important parce que. Et du coup, on va dire combien ça coûte, parce qu'il faut aussi. Il y a des éléments. C'est un véritable audit, un véritable travail, les amis, d'investigation sur vos bâtiments. Et ça concerne d'ailleurs tout le monde, à condition de, que ce soit et dans le PLU, bien évidemment, et c'est la collectivité qui s'en cause. Avant de parler d'inspection visuelle, on va commencer par une phase d'analyse documentaire, c'est-à-dire, précisons, non. Guillaume.
Justement, l'objectif, il est de comprendre la structure du bâtiment. La première étape, clairement, est de récolter des plans.
Les plans, ouais.
Des plans. Tous les plans fiables, ouais. Donc j'entends géomètre ou les plans DOE, qui ouais. permettent à l'ingénieur de, avant même sa visite, pouvoir se dire « Ok, j'ai une structure, poteau-poutre, j'ai une structure... » Enfin, d'identifier la typologie de structure qu'il va auditer. Derrière, sur place, il n'aura pas de moyen autre que sa vision pour inspecter.
Donc le tout document, ce qui... on est d'accord que l'analyse documentaire est un préalable à la visite physique.
C'est un préalable pour optimiser la visite physique.
D'accord.
On sait très bien qu'on n'aura pas toujours des plans de géomètre, qu'on n'aura pas toujours, enfin, quasiment jamais sur ces bâtiments anciens, des plans DOE. C'est la vie du bâtiment a amené à ce que ça soit comme ça. Mais tout ce qu'on aura en amont permettra d'optimiser la visite. Et surtout, comme on doit visiter une partie des lots privatifs pour réaliser la visite dans les normes, on va dire, mais surtout de manière efficace, mmh. en dehors de l'aspect normatif, c'est important qu'on puisse identifier quels sont les endroits qu'on a envie de voir vis-à-vis du modèle structurel du bâtiment.
D'accord. Alors, question, est-ce que vous entrez chez les gens ?
Oui, il est prévu.
Ah oui, vous êtes obligé d'entrer chez les gens. Ah oui.
Et le décret prévoit 30%. 30% des lots
d'habitation. L'échantillon minimum.
Un échantillon minimum.
Pour être très clair, il y a 10 lots dans une copro.
On en voit 3.
3 minimum.
Oui.
Et qu'est-ce que vous regardez dans les 3 ? Tout ?
Les
parquets, les chambres, les balcons, les terrasses, les murs, enfin quoi ?
On est là pour regarder vraiment l'aspect structurel. Donc justement, les parquets, etc. ne sont pas le sujet qui nous intéresse. Mais le fait de pouvoir visiter chaque lot nous permet de voir, par exemple, les balcons. On a besoin de passer
pourquoi, par... Pourquoi c'est important, les balcons ? Tiens, prenons... Parce qu'il y a eu de vrais sujets autour des balcons, notamment à Paris. Rappelez-vous, quand il y a eu les Jeux Olympiques.
Oui, tout à fait.
Vous vous rappelez, c'était d'ailleurs le ministre de l'Intérieur actuel qui était préfet de Paris, qui avait demandé justement à ce qu'il y ait des précautions faites sur les balcons.
Aujourd'hui,
c'est pour dire que déjà, c'était un peu dans les mentalités. Quoi.
C'était déjà dans les mentalités. On a subi des effondrements de balcons et des accidents horribles, parce que souvent, c'était lié à une surcharge, trop de personnes. Malheureusement, il y avait toujours des personnes sur le balcon.
À Paris, quand il y a eu cette fête chez une dame d'une cinquantaine d'années où il y avait tous les invités sur la terrasse, effondrement, quatrième étage, c'était... C'est...
Un drame absolu. Ouais.
Là, pour le coup, c'est mortel, hein.
Exactement, et les balcons sont des constructions souvent en porte-à-faux.
Alors, c'est quoi, préciser ?
C'est-à-dire qu'elles sont avec une avancée sans avoir forcément de poteaux pour les supporter. Elles sont raccrochées dans le bâtiment.
Ah oui, mais c'est une structure. Exemple ça.
Exactement.
Avec un
porte-à-faux, c'est-à-dire qu'on a la façade, on a la structure.
En fait,
il
n'y a pas de porteur directement en dessous. Oui. C'est raccroché via la structure, mais tout de suite, c'est un point de fragilité.
C'est une étagère sans équerre.
Ça fait flipper quand même un peu.
Ça reste souvent ça pourrait,
mais est-ce que l'idée... Parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus ça, maintenant, dans les constructions. On fait toujours ça.
On le fait toujours, mais on a des normes qui sont largement supérieures. Et
d'accord.
Surtout, le balcon est à l'extérieur, donc il est beaucoup plus soumis à toutes les intempéries,
oui.
Les infiltrations.
Bien
et sûr. En fait, les infiltrations à cet endroit-là peuvent venir sur un bâtiment en béton, corroder les aciers, et augmenter cette dégradation.
Quand vous regardez les bâtiments, je suppose qu'il y a un process avec des points de contrôle.
Alors, exactement, ce n'est pas des points de contrôle spécifiés, mais une méthodologie qui est retenue.
Exemple. Donnez-moi un exemple.
Alors, c'est très simple, il faut partir du concept de la descente des charges. C'est-à-dire qu'on part du haut, et on descend jusqu'en bas pour identifier qu'est-ce qui porte quoi, et toiture jusqu'aux fondations.
Oui. Mais alors, dans l'échantillonnage, il vaut mieux commencer par le haut et aller vers le bas.
Exactement.
C'est-à-dire que ce n'est pas 30% au hasard.
Non, c'est 30% selon les changements
d'accord.
structurels, alors, d'où le besoin des plans pour
identifier. Ma chère Laetitia, organiser l'accès, parce que c'est en plus pas n'importe lequel.
Oui.
Je peux pas aller n'importe où, je peux pas faire les trois parts. Voilà, j'ai 10 apparts, je fais pas les trois du bas, quoi.
C'est ça.
Comment vous faites ?
Tout un art. Alors ça se fait, c'est un défi. Clairement, mais c'est là que du coup, bah, l'accompagnement d'un bon prestataire...
Il faut que les gens soient chez eux, il vaut mieux qu'ils soient chez eux.
Alors déjà, il faut qu'ils soient prévenus, effectivement.
Oui, prévenus,
quand,
oui.
Voilà, là, on est en train de parler de ça ne vient pas du jour au lendemain, où on dit, tiens, madame Michu, soyez chez vous ce jour-là, parce qu'il y a quelqu'un qui va passer, débrouillez-vous, faites comme ça. Évidemment, on en a parlé tout à l'heure, on va le voter en Assemblée Générale. En Assemblée Générale, on a un bon échantillon des copropriétaires présents.
Ouais.
On parle évidemment de la méthodologie et des visites nécessaires.
Il peut y avoir une solidarité entre voisins. Je te file les clés, je dois aller bosser.
Bien évidemment, on a vu que pendant le Covid, la solidarité existe encore dans les immeubles, donc il n'y a pas de raison que ça n'existe plus. Non, mais voilà, effectivement, c'est la clé, ça reste la communication avec les copropriétaires pour organiser ce genre de choses. Il va falloir faire
des réunions
préparatoires.
Vous l'avez déjà fait ?
Alors, on n'a pas encore eu l'occasion de faire de diagnostic structurel, en tout cas dans le cadre de l'obligation, puisque pour l'instant...
Oui, ça vient d'être adopté.
Et puis à Lille, qui est la seule mairie qui a vraiment bien avancé sur le sujet.
Ouais.
Pour l'instant, au sein des Voriels, il n'y a pas d'immeubles concernés par les rues qui ont été désignées, ni chez Lamy, ni chez Auralia. Donc on attend les premières expériences. En revanche, de l'expérience, on en a déjà, puisque vous en parliez tout à l'heure, le plan pluriannuel de travaux, le diagnostic de performance énergétique collectif, il nécessitait déjà un échantillonnage de visites. Alors c'était 10%, c'est vrai que c'était un petit peu moins, mais ça nous a permis finalement de tester la méthode et puis de pouvoir faire mieux derrière. Et après, encore une fois, c'est vrai que ça se fait très bien, avec beaucoup de communication, et pas tout seul non plus. C'est vrai que c'est pas le syndic avec ses petits courriers qui peut tout faire tout seul. Il faut de la bonne volonté des copropriétaires, mais en général, on l'a, puisqu'on est quand même sur un sujet de sécurité. On est à la sécurité de leur famille, sécurité de leurs biens. Je veux dire, en général, ça bouge quand même les mentalités, ça bouge les volontés. Et puis, on a effectivement des sociétés comme Axéo qui accompagnent sur la réalisation de ce diagnostic structurel et qui ont l'expérience.
C'est les meilleurs.
De cette organisation.
Je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, vous avez Axéo à une pertinence sur l'ensemble de la structure des bâtis. Quand je dis des bâtis, je parle de classe d'actifs tertiaire, retail et résidentiel, qui sont comme une mesure. En plus, vous avez à bout la particularité, c'est que de ne pas avoir de parti pris. Puisque vous ne faites pas les travaux. Vous pouvez aider sur la conduite des travaux, vous pouvez suggérer éventuellement des conseils méthodiques, mais vous êtes une impartialité redoutable. C'est ce qui a fait le succès d'Axéo, il faut être très clair. C'est vrai que ce soit pour les ascenseurs ou autres, il faut être très clair. Parce que c'est important que vous ayez aussi des partenaires qui ont une capillarité géographique, prêts à intervenir. Oui, c'est là qu'on voit la pertinence du dispositif. Quand vous avez dit on inspecte les façades, les balcons, etc., j'ai compris le système des charges, donc il n'y a pas de problème. Donc vous allez échantillonner en fonction de la typologie. Après, au niveau méthodologie, est-ce que vous faites, des prélèvements? Est-ce que, vous savez, quand on fait des détections, vous savez, de fuites destructrices, non destructives, etc. Est-ce que vous faites des prélèvements, vous forez éventuellement? Est-ce que vous vérifiez, les structures,
fissures,
ou carrément faire des tests peut-être en réel, ou voire même, est-ce que vous pénétrez les caves, par exemple, pour savoir s'il n'y a pas des remontées capillaires, voilà.
On doit aller dans les caves, justement, et dans l'aspect fondation et socle du bâtiment qui est le plus important, d'une certaine manière, parce que c'est la base. Par contre, toute l'inspection reste purement visuelle. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'investigation destructive. On ne va pas faire sauter de doublage, arracher le parquet pour voir l'état de la structure ou quoi que ce soit.
C'est pas évident, alors comment vous faites alors?
Alors, on a un process, on a des ingénieurs
formés. Il n'y a pas un scanner
Alors, ça existe. Toutes ces investigations avec un ferroscan, avec un géoradar, etc.
Oui, par exemple,
existent, mais c'est une étape ensuite.
D'accord.
C'est-à-dire que si le DSO et cette inspection visuelle met en avant des inquiétudes et des préconisations de réaliser des diagnostics complémentaires ou de faire une instrumentation de fissure pour voir si elle évolue autrement que liée à la température, il faudra le recommander, et ça sera recommandé dans le DSO et intégré dans le 3PT, par exemple.
Alors, que je fasse une analogie, même si on essaie. Prise de sang.
Oui.
Première vue, la prise de sang, il n'y a pas d'examen complémentaire, ça va passer, il n'y a rien à voir.
Oui, en quelque
bon, sens. Là, j'ai peut-être les plaquettes ou les gammes AGT, parce que peut-être que j'ai un peu trop picolé, ou je mange un peu trop, etc., etc. Suivez mon regard. On se dit, il faut faire des examens complémentaires. Est-ce que c'est ça que ça veut dire ?
C'est
du style, le DSO va prendre une photographie et mettre le point sur des éléments dans lesquels, là, il va falloir que vous dites, là, il faut qu'on fasse des prélèvements. Là, il faut qu'on fasse peut-être des interventions un peu destructives. C'est possible, ça.
Exactement, c'est le but du DSO.
C'est le préalable.
Le DSO, c'est vraiment un préalable, c'est vraiment une première étape.
Et c'est fiable ?
C'est fiable dans la mesure de ce qu'on peut voir, dans le sens où ça va nous permettre d'identifier les risques structurels et justement de préconiser les bonnes étapes suivantes. Soit ça peut être dans le cas de l'identification d'un risque apparent, faut dire les choses, évacuer, étayer, enfin ce genre de choses. Ça peut arriver, mais bon, j'imagine que ce sera le cas assez rare.
Vous, en tant que pro du secteur, ça vous paraît suffisant en première approche, objectivement ?
Alors, objectivement...
Vous avez l'habitude ?
Objectivement, c'est déjà une énorme amélioration par rapport à l'aspect réactivité qu'on avait avant.
D'accord.
Aujourd'hui, on va venir se poser des vraies questions, voir un plancher qui flambe et se dire « attention, il faut peut-être recalculer le plancher, faire un diagnostic plus complet, voir des fissures et des épaufrures.
Okay. » Oui, mais si on sait qu'il va y avoir des travaux, est-ce que ça vaut pas peut-être le coup, on gagnerait pas du temps à aller tout de suite à l'essentiel?
Pour faire des travaux, il faut déjà les préconiser de manière cohérente.
Ouais, c'est clair.
Donc le DSO peut préconiser la réalisation de certains travaux directement.
Parce que là est-ce qu'on est d'accord qu'on peut très bien aller dans une copro chez Evorian, et on y a très peu qui sont en très grande difficulté, mais on va dire, on arrive et on se dit, attendez là, il y a un vrai sujet, par exemple sur les balcons, je dis une bêtise, mais où il y a un gros sujet d'infiltration qui est en train de modifier la structuration de portage de l'immeuble qui peut être, qui pourrait être dangereux. C'est pas pour... on peut faire des évaluations, etc. Mais là, typiquement, ce qui s'est passé à Honfleur, c'est un problème d'évacuation. C'est-à-dire que s'il y avait eu un drain qui évacuait l'eau, l'immeuble, il serait toujours là. Il était déjà là depuis 150 ans. Et c'est vrai que le problème, c'est que comme vous avez des immeubles qui sont là depuis 100 ans, ils se disent, mais il restera bien 10 ans de plus. Ben non, il suffit d'un grain de sable, vous savez, pour que ça déborde. Si jamais vous vous dites, là, il va falloir faire des travaux, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une assemblée générale extraordinaire ?
Votre question,
on attend la prochaine assemblée
C'est d'envisager que si, effectivement, on voit qu'il y a un désordre, pourquoi faire un DSO et pourquoi pas passer directement par la réalisation des travaux ?
Et vous, en plus, vous êtes au cœur du réacteur, vous le savez, ça.
On le voit. Alors, effectivement, ça peut donner envie. On peut dire, allez, on y va, on traite tout de suite, on va réparer cette fissure pour pas qu'elle s'aggrave, etc. Alors, ça peut donner envie, mais c'est pas forcément une très bonne chose. Ce qu'il faut savoir avec le diagnostic structurel, c'est que c'est pas fait par un maçon ou un sachant du bâtiment classique. C'est vraiment des ingénieurs qui ont 5 ans d'études, de l'expérience, des assurances adaptées aussi. Donc, ce qu'ils voient n'est pas tout à fait ce que l'entreprise qui va vous faire les travaux vient et vous dit, pas de souci, on va vous mettre un peu de mastic sur la fissure, on va réparer tout ça, et au moins ça va pas se dégrader.
Un pansement sur une jambe de bois, quoi.
Exactement.
Bah oui, ça sert à rien.
Ce qu'il faut vraiment éviter, c'est ça, c'est d'aller faire des petits travaux, que finalement, 3 mois plus tard, on pense à la dalle de balcon. Tout à l'heure, on parlait d'une dalle de balcon. Vous avez le voisin du dessous qui appelle, il y a la peinture qui s'écaille. Pas de souci, syndic réactif, on vient mettre un coup de peinture, c'est fini, on voit plus rien. 6 mois plus tard, la peinture se réécaille. 6 mois plus tard, etc. Ça peut durer longtemps et ça peut faire beaucoup de centaines d'euros dépensés en peinture pour finalement se rendre compte que les fers se sont dilatés, qu'il y a de la corrosion et qu'en fait, c'est toute la structure du balcon qui... C'était un symptôme. Il fallait le voir et il fallait aller le traiter en profondeur. Il n'y a que le DSO aujourd'hui qui va pouvoir nous dire ça. Ce n'est pas le voisin du dessous, ce n'est pas le syndic qui va pouvoir dire « j'imagine que les fers sont en train de se... » Non, chacun son métier, entre guillemets, si on prend des experts et si la loi a décidé de mettre en place une expertise spécifique. Alors oui, c'est un préalable, parce que c'est sûr que si on disait à nos copropriétaires aujourd'hui « Alors écoutez, on en a pour 25 000 euros, mais on fait un diagnostic total, on scanne le bâtiment, on refait tout, personne ne voudrait y aller. » Donc et là, oui. Ça nous permet effectivement d'avoir une... première image qui permet de se dire est-ce qu'on a vraiment des faiblesses, est-ce que ça vaut le coup d'investiguer ou est-ce que non, tout va bien, et derrière on peut envisager de faire du joli, de faire du thermique, de faire plein de choses dessus derrière.
Alors justement on le voit bien parce qu'on le voyait déjà avec le plan pluriannuel de travaux, on le voyait déjà avec la mise en place du fonds pour les travaux, toutes ces obligations qui sont pesantes et l'action curative. Préventive et curative. C'est quoi le délai, selon vous, Parce que là, alors là, ça vient de démarrer, on est d'accord. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop de recul. D'accord. Donc pour l'instant, on n'est pas encore dans un schéma complexe de travaux. Mmh. Mais ça va arriver. Parce que inévitablement, le DSO va amener à des constats. Je pense que vous ferez certainement des investigations supplémentaires. En plus, vous faites de l'AMO, donc vous faites de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc il y aura un accompagnement certainement qui va s'opérer. À votre avis, c'est quel délai ? Est-ce qu'on va être sur les mêmes délais que quand il faut voter les travaux, il faut attendre l'Assemblée générale de l'année, donc du coup, ça ramène à un an, voire plus. Alors que, je rappelle, on a 18 mois pour faire le DSO, mais est-ce que dans les textes, à partir du DSO qui implique de faire des travaux, il y a une obligation de les faire ?
Aujourd'hui, dans les textes, ce n'est pas prévu.
Oui, justement. C'est
aujourd'hui,
pas
il n'est pas
ça
prévu.
Ça aussi, c'est un vide. C'est-à-dire que, oui, ok, ils adorent ça en France. Hein. On va faire le DPE, enfin le DSO. Mmh. C'est fait. Par contre, le DSO met en place quelque chose qu'il faut absolument faire, sauf que la copropriété, elle peut décider de ne pas le faire.
On y a un aspect de responsabilité.
Alors, effectivement, et du coup, c'est une responsabilité qui est prise par le syndicat des copropriétaires, qui est pénale. Hein.
Les propriétaires qui ne veulent pas faire les travaux, l'organe de représentation, c'est le conseil syndical.
Alors, l'organe de la représentation de la copropriété, c'est le syndicat des copropriétaires.
Oui, c'est le conseil syndical.
Qui prennent leurs décisions
en
Assemblée générale.
Ah oui, le syndicat des copropriétaires, justement, le syndicat des copropriétaires.
Le conseil syndical, c'est un atout et un vrai œil de surveillance pour la copropriété. C'est vraiment le lien entre le syndic et les copropriétaires. Aucun problème, mais ce n'est pas l'organe décisionnel. L'organe décisionnel, ça reste le syndicat des copropriétaires qui se prononce en Assemblée générale.
Alors, si demain... On vous dit, vous, syndic professionnel, nous, on ne fera pas les travaux parce qu'on ne veut pas les faire, parce qu'on n'a pas les moyens. Vous vous dédouanez de votre responsabilité.
Alors, effectivement, déjà, on va le regretter, puis on va essayer de peut-être pédagogiquement de revenir
mais imaginons,
par d'autres formes.
Je caricature un peu. Est-ce que vous, si jamais il y a un risque et que la propriété persiste à ne pas vouloir vous écouter, vous, conseil professionnel, quel est le moyen que vous avez pour vous dégager votre responsabilité ?
Alors, nous, à partir du moment où le syndicat des copropriétaires aurait refusé des travaux en Assemblée générale qui lui auront été préconisés, en tout cas proposés par le syndic, effectivement, le syndic n'a plus de responsabilité directe sur cette décision. C'est le syndicat des copropriétaires. Après, en revanche, derrière, il reste l'organe institutionnel qui est la mairie, et qui, derrière, elle, va pouvoir prendre des actions coercitives. C'est pas le syndic qui peut prendre des petites actions coercitives envers la copropriété. On va dire que dans le pire des cas, s'il n'est vraiment pas écouté, il pourrait menacer de sa démission en disant « Écoutez, moi, je ne peux pas vous gérer si vous continuez à prendre de tels risques. »
Alors, Guillaume, oui. Juste pour qu'on reprécise pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on trouve précisément dans le DSO ? Alors,
De manière précise, on trouve, et là, l'arrêté de 2025 le décrit, une méthodologie de recherche et un rapport qui doit être dans ce sens-là.
Rapport, c'est pas une méthodologie de rapport, il n'y a pas un proforma de rapport.
Alors, il n'y a pas un proforma, il y a une méthode et une organisation de rapport, c'est-à-dire qu'il y a une description de tout ce que le rapport doit contenir.
D'accord.
Avec une classification des risques et des
préconisations. C'est pas des points de contrôle.
Tous les points de contrôle sont à définir par l'ingénieur en charge du projet, qui, en fonction de la typologie du bâtiment, va se dire « Ok, je vais regarder tels endroits, c'est comme ça qu'on va déterminer aussi les lots qu'on va visiter », et qui va, dans le sens de la descente de charge, qui est quand même une façon de retravailler un bâtiment assez cadré, venir apporter sa compréhension de la structure du bâtiment, regarder la structure dans son ensemble, et mettre en avant toutes ces remarques, toutes ces réserves et toutes les préconisations avec une classification, on va dire, de niveau 1, 2, 3 pour définir qu'est-ce qui est important, très important et extrêmement urgent à traiter, le cas échéant.
D'accord, c'est très clair. Alors, justement, donc là, c'est précis. On a ça dans le DSO. Une fois que je l'ai fait, effectivement, deux solutions. Le rapport dit RAS, tout va bien.
On est ravis.
Voilà.
On se revoit dans
10 ans. Le rapport dit il faut faire des investigations complémentaires.
Oui.
Donc là, on paye les investigations supplémentaires. Mmh. Une fois faites ces investigations supplémentaires, elles peuvent mener à deux choses. Les travaux ne sont pas urgents, on peut les différer dans le temps, effectivement, il n'y a pas trop d'urgence, mais a priori, ça vaudrait mieux qu'on les fasse. Donc la sortie in fine du DSO, c'est d'aller vers un complément d'investigation pour pouvoir aller vers un schéma travaux.
Exactement.
On est carré.
On est carré. Et on assainit le bâtiment.
Eh bien, écoutez, c'est extrêmement précis. Dernière partie, conclusion, conseil pratique.
Le bâtiment optimisé. Axéo vous répond.
On vous le dit les amis, avec Axéo, on a une chose depuis toutes ces années, c'est donner les conseils pratiques, clairs. Donc là, c'est bien, j'ai tout compris. Merci d'ailleurs, j'ai vraiment tout compris. Partie 3, DSO, diagnostic structurel obligatoire. On est d'accord ?
Exactement.
3 PT.
Plan pluriannuel de travaux.
Ok, c'est un duo gagnant, Guillaume.
Oui.
3 PT combiné avec le 2SO, ce n'est pas une couche de plus, ça se complète.
Alors, ça vient se compléter parce que, comme on le disait, on regarde des éléments de manière plus précise, on regarde plus de logements, on a une méthodologie de recherche qui est un peu différente. Après, le texte prévoit qu'un 3PT, s'il est réalisé avec l'exhaustivité d'un DSO, peut valoir DSO.
D'accord. Donc, ça reste...
Ça reste très complémentaire.
Ça reste très complémentaire. Laetitia, la rénovation énergétique, ça reste une priorité chez Evoriel.
Tout à fait.
C'est un des axes hyper importants. Vous ne plaisantez pas du tout avec ça. Au contraire, vous êtes très engagé sur cette question. Et d'ailleurs, c'est même hyper rassurant pour les clients. Est-ce que ça risque pas le DSO de phagocyter, entre guillemets, les budgets travaux ? Parce que oui, du coup...
Alors non, plutôt l'idée c'est de se dire que ça va payer, sécuriser. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, réaliser des travaux de rénovation énergétique sur un bâtiment qui ne serait pas structurellement sain, c'est finalement avoir dépensé beaucoup d'argent pour améliorer le confort, améliorer le pouvoir d'achat des copropriétaires ou des locataires qui vivent à l'intérieur, c'est très bien. Sauf que si derrière l'immeuble s'effronte, ce n'est pas parce qu'il aura été rénové que sa valeur va rester telle qu'elle sur le marché.
C'est
donc,
très clair.
Clairement, non, il faut le voir plutôt comme un préalable. En réalité, c'est vrai que à partir du moment où le diagnostic structurel va pouvoir identifier des faiblesses, bah oui, effectivement, naturellement, le professionnel et les copropriétaires vont se diriger vers la résolution de ces problématiques avant d'aller, entre guillemets, habiller la mariée avec des vêtements plus chauds.
Ok, alors c'est très clair. Question, qu'est-ce qu'on fait si on dépasse les délais de 18 mois ?
Qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de ne pas les dépasser, on échange avec la mairie pour leur expliquer pourquoi on dépasse. Je pense qu'aujourd'hui, ce cas, il n'a pas encore été traité, on va dire, dans un cadre légal.
Il n'y a rien qui est prévu dans le texte en disant si jamais le syndic ne s'exécute pas dans le délai du ressort.
Si, il est prévu dans le texte que la mairie puisse prendre la main et faire réaliser à la charge du syndic.
Oui, mais elle ne prévoit pas, par exemple, je ne sais pas moi, Non. Il n'y a pas de risque d'une amende, d'une inscription, d'une dénonciation, etc. On est d'accord. Il n'y a pas de mesure coercitive sur le texte.
Aujourd'hui, sur le texte, il n'y a pas de mesure coercitive. Après, il y a une mesure induite qui est que cette obligation va impacter toute personne qui veut vendre un bien dans cette zone. Un acheteur va regarder, voir que le bâtiment a cette obligation, que ce n'est pas fait, ça sera discuté dans les AG de copro, donc obligatoirement, ça impacte indirectement
la valeur du bien.
Laetitia, si un syndic, par exemple, de son immeuble, qui a plus de 15 ans, quel est l'acte réflexe à poser dès la fin, justement, de ces problèmes pour justement être en anticipation ? Parce que le vrai problème, c'est que ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup de petits syndics qui ont des petites copropriétés. Et parfois, c'est marrant d'ailleurs, parce que tout à l'heure, on a enregistré une émission et on parlait des copropriétés dégradées, des vrais sujets de copropriétés dégradées. Qu'est-ce qu'on fait si on a un délai ? Imaginons, voilà, est-ce que j'attends l'Assemblée Générale de juin alors que je dois avoir des actions curatives tout de suite ? Comment on fait pour essayer de passer à l'acte un peu plus rapidement ?
Alors, il y a plusieurs cas de figure. Oui. Le premier, c'est qu'effectivement, si on n'est pas dans l'obligation du diagnostic structurel obligatoire et qu'on voit qu'il y a des symptômes sur le bâtiment qui éveillent la curiosité, ou en tout cas qui peuvent faire un peu peur, faire un peu d'inquiétude.
Oui, par exemple, imaginons
l'idée, c'est de peut-être pas attendre que la mairie pose son arrêté et dire le diagnostic structurel est obligatoire ici, faites-le dans le délai de 18 mois, etc. C'est une question de bon sens, surtout, et les syndics n'en manquent pas en général, c'est vraiment de se dire, là j'ai un symptôme, j'en parle à mes copropriétaires, je fais faire de devis pour avoir un diagnostic structurel. C'est du bon sens et de la logique. Si par contre, effectivement, on est un peu plus tard ou dans une ville où effectivement le diagnostic structurel obligatoire est tombé et concerne l'immeuble, Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Soit l'Assemblée Générale, effectivement, se tient en juin, on est en avril. Je ne pense pas qu'on puisse faire mieux en termes de délai. Il faut vite récupérer des devis et vite le mettre à l'ordre du jour. Si en revanche, l'Assemblée Générale est en décembre, non, on ne va pas attendre, effectivement, à faire une Assemblée Générale supplémentaire aux frais du syndicat des copropriétaires. C'est prévu hein, dans la loi, dans le contrat. Et c'est vraiment une question de conseil et de devoir de conseil du syndic.
Donc, devoir du conseil, d'ailleurs. Non, mais c'est important, ce que vous dites, c'est hyper important. Devoir du conseil, il est dans l'usage et même dans la déontologie du syndic professionnel. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le syndic professionnel est important dans l'équilibre de la gestion des copropriétés urbaines, parce que vous intégrez cette notion de responsabilité par délégation. C'est-à-dire qu'on vous délègue la gestion, la bonne gestion, la mise en forme, au sens presque physique du terme, de l'immeuble, en fait. Et c'est à vous qu'on fait confiance. Et si vous vous dites, oui, moi syndic, je vous dis qu'il faut faire les travaux, parce qu'on a fait le DSO, qu'il apparaît des problématiques structurelles et qu'il est nécessaire que vous ayez les moyens ou pas, de toute façon, il y a un vrai sujet. Donc on va trouver ensemble des solutions de financement, etc. Bref, ce que vous faites au quotidien pour accompagner. C'est hyper important de placer, vous voyez, quand on est syndic, souvent on a cette image un peu cliché du syndic un peu vieillot, qui n'a que pour encaisser les charges. Bien au contraire, vous faites preuve de pédagogie, ce qui démontre la capacité qu'ont les professionnels à faire face à cela. Il est l'heure de conclure. Dans cette conclusion, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on donne justement les bons pratiques. Si je devais vous demander, mon cher Guillaume, quelques points essentiels, une, deux ou trois, à quoi je dois faire très attention. Bon, déjà, j'appelle Axéo, ça c'est sûr, évidemment. Mais ensuite, voilà, quels sont les points de vigilance, conseils que vous donnez à toutes celles et ceux qui nous écoutent?
Déjà, concernant le DSO, il a pour objectif d'être préventif. On peut aussi être en prévention vis-à-vis de l'obligation. Rien n'empêche de faire son DSO pour avoir une vision de l'état de la copro avant même que la mairie en mette l'obligation. C'est déjà prévu qu'on puisse faire ce diagnostic de manière cohérente avec la réglementation. Et comme ça, le jour où ça devient obligatoire, il y a juste à le transmettre. On en parlait, fournir les plans, essayer de récolter des plans, même si on sait que ça n'existe pas tout le temps. On a souvent quand même des plans de géomètres qui ont été utilisés pour faire les tantièmes, donc ils ont tendance à exister dans un coin, souvent chez le géomètre. Ces plans-là de géomètres nous donnent des vraies informations sur la structure. Le 3PT, s'il a été réalisé, donne quand même déjà des informations pour pouvoir préparer la mission. Ça donne quand même une sorte de prévisite où on voit des dégradations visibles qui n'ont pas forcément été recherchées. Comme on est dans du préventif, on est aussi dans l'anticipation, et tout ce qu'on peut préparer en amont est toujours une
c'est
aide.
Exactement la base documentaire dont vous parliez tout à l'heure. C'est tout à fait ça. Oui, c'est quand on donne des illustrations. Si on devait, pour conclure, donner un conseil, Laetitia, avec les syndics qui nous écoutent, d'ailleurs, ils nous écoutent tous, voilà, tout simplement, parce qu'on est leur radio. Les bonnes questions, qu'est-ce qu'il faut faire? Les questions de Laetitia Denain.
Les bonnes questions.
Les réflexions, les conseils de Laetitia Denain. Vous savez, les petits conseils de Laetitia, ça pourrait faire un très bon titre d'émission, ça.
Le petit conseil, alors je vais enfoncer des portes ouvertes, mais visiter son immeuble. Visiter les immeubles que l'on gère et effectivement ouvrir les yeux, parce que souvent c'est des petits symptômes, des petites fissures, des petites remontées par capillarité, vous en parliez tout à l'heure.
Vous avez l'habitude.
Quand on a les... comment dire ?
Vous avez l'habitude. Vous habitez dans une maison ou dans un immeuble collectif ?
Alors aujourd'hui j'habite dans une maison, mais j'ai eu la chance d'habiter très longtemps dans des immeubles collectifs et d'en gérer beaucoup pendant 15 ans.
Et vous voyez tout,
Effectivement, oui, on a l'œil déformé par... par la profession. Effectivement, quand on voit de la moisissure dans le hall d'entrée, quand on rentre et qui remonte vers le bas, bah, c'est exactement les remontées par capillarité que vous décriviez tout à l'heure.
Et puis, c'est pas bon pour l'air intérieur.
Si, effectivement, c'est pas un coup de peinture qui va les effacer.
C'est pas qu'un problème matériel, c'est aussi un problème de bien vivre. Vous savez, une remontée capillaire qui vient par le sol, vous savez, il y a des remontées avec des micro-organismes qui génèrent ce qu'on appelle du salpêtre. Et le salpêtre, c'est un poison mortel, par inhalation successive pendant très longtemps. Il y a une jeune femme qu'on a interviewée ici, qui s'appelle Marine Leblon, qui a eu les poumons transplantés, dont on a établi que la cause pathogène de sa maladie, vous imaginez, une transplantation des poumons, elle était quasiment morte, elle était contaminée au salpêtre. Parce que le mur sur lequel son lit était collé à l'extérieur était hyper contaminé et qu'on peut faire des prélèvements. Vous avez des sociétés techniques. D'ailleurs, je vous inviterai, puisqu'on on a une collection qui s'appelle Maison Saine. On parle de la maison en termes d'établissement sur lequel on doit se sentir bien, bien respirer, même la nuit, et mieux respirer. Ça s'appelle Murprotec, qui a créé un collectif Maison Saine. Je trouve ça intéressant justement que vous partagiez cette expérience-là. Et quand vous leur parlez comme ça à vos clients de la qualité de vie, ils y sont sensibles. Ils ont compris que si jamais ils traitent l'humidité chez eux, par exemple, qu'ils ont une VMC qui marche.
Ils y sont sensibles quand on évoque les sujets avec un minimum de connaissances. Parce qu'en général, ce qu'on voit, c'est que c'est la méconnaissance qui va faire les problématiques.
Quand vous dormez le matin, vous avez pas mal à la tête. Ah si, si, quand même, etc. Vérifiez quand même tel point, puis les choses, c'est incroyable comme ça peut s'améliorer avec très peu d'actions curatives.
Donc le conseil pour les syndics, c'est effectivement d'écouter les émissions en podcast de Radio Immo, qui sont effectivement très instructives, de bien ouvrir ses yeux quand on visite les immeubles, et surtout de ne pas avoir peur d'apprendre sur le terrain. Clairement,
avoir peur d'apprendre sur
exactement.
Terrain.
C'est pas parce qu'on est syndic qu'on connaît exactement tous les immeubles qu'on gère. On n'est pas sachant du bâtiment, on n'est pas ingénieur bac plus 5 dans la structure des bâtis. Il faut avoir l'humilité de se dire je ne connais pas tout, je m'entoure des bons experts, je propose à mes copropriétaires de prendre les bonnes décisions avec beaucoup de pédagogie, d'intervention, d'explication, pour qu'ils augmentent leurs connaissances et qu'ils puissent prendre les bonnes décisions.
Moi, si j'habitais dans un immeuble collectif, je vous prendrais bien comme syndic.
Ouais. Avec plaisir.
Parce que c'est d'une précision redoutable et d'un bon sens. C'est extrêmement remarqué, en même temps, c'est votre métier. Donc, il faut être très clair. C'était un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Je rappelle le point essentiel, effectivement, mise en place du diagnostic structurel obligatoire. Nouveau pilier de la sécurité immobilière. Je rappelle que ce sont les mairies qui doivent le mettre dans leur PLU, plan local d'urbanisme, et les syndics ont un délai de 18 mois, au-delà duquel c'est la mairie qui peut les pousser à le faire, bien évidemment, aux frais du syndic. Donc du coup, vaut mieux prendre les devants, mais je pense que tous les pros, alors peut-être les syndics bénévoles, mais ils sont à la marge, mais tous les pros vont s'y mettre et adopter, bien évidemment. Un immense merci à vous, Laetitia Dodin.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes responsable métier syndic chez Evoriel. Pour revenir.
Avec plaisir.
Avec grand plaisir. C'est un vrai plaisir d'avoir un syndic qui parle clair et qui parle bien. Un immense plaisir également d'avoir Guillaume d'Horizon. Merci, Guillaume.
Merci.
Ça va, ça s'est bien passé pour une fois.
Très bien.
Voilà, parfait. Voilà. Vous changez rien. Vous êtes ingénieur de formation.
Il paraît.
Ouais. Ben oui, forcément. Mais l'avantage, au moins, avec vous, les ingénieurs, c'est que c'est toujours précis. Il n'y a jamais un mot en plus. C'est toujours d'une précision chirurgicale. Je rappelle que vous êtes directeur d'activité AME, AMEMO et AME chez Axéo, spécialisé en principe sur les actifs tertiaires, mais globalement, une très bonne réflexion également sur les actifs résidentiels. Un petit clin d'œil à notre Juliette Dumoulin qui fait un boulot remarquable. Merci, on est très heureux également à votre président, Jérôme Spencer, à qui on fait un gros clin d'œil qu'on revoit régulièrement sur nos événements. Le bâtiment optimisé pour ce numéro d'avril, c'est terminé. On se retrouve en mai pour un nouveau numéro du bâtiment optimisé. Je vous rappelle que le DSO, il entre en vigueur. On en reparlera, on prendra des piqûres de rappel réguliers sur ce type d'opération. N'oubliez pas, prenez soin de vous, mais prenez soin également de votre immeuble et de votre appartement, comme on prend soin des vous et des siens. Voilà, prenez soin de vous. J'ai été très heureux de vous avoir sur le plateau. On se retrouve le mois prochain.
Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo, à retrouver sur les sites et applis de Radio Immo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.